quoi, Robert Blondin?
Ah, bonjour, Alexis Wawanolowatt. C'est une émission qui jette des sentiers, des ponts entre allochtones et autochtones. Puis on a de la belle matière cette semaine, Alexis.
Ben oui, aujourd'hui on va commencer avec Pierre-Auros Tremblay. C'est le titulaire de la chaire de recherche en tradition intellectuelle et autodétermination autochtone. Et il est professeur à l'Institut de recherche d'études et d'études autochtones de l'Université d'Ottawa. Quoi est Pierre-Auros?
Quoi?
Ça va bien?
Oui, très bien, oui. On a du beau temps, là. C'est plaisant. Il fait beau.
Ben oui. On se connaît un peu personnellement, mais j'avais pas idée de ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qui t'a amené à devenir professeur? Je vois que t'as passé par l'Angleterre, t'as passé par ton territoire ancestral. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours?
Oui, ben je suis content qu'on se parle parce que nous, ça fait quand même très longtemps, assez longtemps qu'on se connaît, puis on a toujours continué à discuter, échanger, et puis même si on n'était pas d'accord, on discutait, puis c'est comme ça que je conçois le rôle un peu du monde académique, de pouvoir discuter de tout dans le respect, puis de poursuivre la réflexion aussi, puisque nos idées changent, on se transforme, notre vie passe, tu sais, puis c'est comme ça que je le vois.
C'est
puis, c'est un peu ce qui m'a amené à continuer dans le monde académique à partir du début, puis de choisir de faire une carrière dans le monde, devenir prof d'université, pas faire la politique, pas travailler dans l'administration, mais de jouer ce rôle-là de recherche, d'approfondir les questions et de dire les choses comme elles sont. Parce que c'est pas le même rôle que d'être un artiste ou de jouer un rôle politique. Moi, je suis pas payé pour faire plaisir à mon public ou de nécessairement dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais de dire les choses comme elles sont. Pas en prétendant avoir toute la vérité, mais d'apporter une perspective critique sur les, entre autres sur les institutions coloniales. Alors, c'est ce qui m'a amené à continuer et aussi à amplifier puis faire entendre nos traditions intellectuelles, les perspectives des aînés en particulier. Alors, c'est tout un processus de réappropriation culturelle d'un côté et en même temps de réflexion critique. Fait que, c'est ça.
Donc, toi, tu as commencé comme ton parcours académique en faisant des études en droit, si je comprends bien.
Moi, j'ai commencé, j'étais allé au cégep, j'ai étudié plus jeune, polyvalente à Baie-Comeau, puis j'étais allé au cégep à Québec, et puis c'est au collège Mérissy, puis c'est là que je suis parti vers l'international, j'ai voyagé beaucoup, beaucoup, puis c'est à travers l'international que je suis revenu un peu chez moi, puis jusqu'à retourner dans les années 2000 dans ma communauté, et tout ça, puis après ça, oui, j'ai fait le droit à l'Université Laval, ouais, à l'époque, c'est ça, l'Université Laval, après ça, j'ai continué, pour ça, je suis allé apprendre l'anglais au Sheridan College à Brampton. Après ça, je suis allé à l'Université de Waterloo en études de la paix, parce que je m'intéressais beaucoup à l'étude des génocides, la violence de masse. Pas nécessairement au Canada encore, mais ce qui se passait autour du monde, la question des génocides, la diplomatie, la prévention de la violence de masse. Puis j'ai continué après... je fais ma maîtrise à l'Université de Saint-Paul en études de conflit, justement, sur les questions de génocide, puis tous les mouvements sécessionnistes, aussi la question du Québec, du Canada, et puis ensuite, c'est là que la question des premiers peuples, et puis de ce retour-là, toutes les questions autochtones sont devenues centrales dans ma vie, puis j'ai décidé de à un moment donné de retourner, d'aller sur le territoire, dans nos communautés, puis là, j'ai décidé de faire mon doc, vraiment sur la question de l'autodétermination. J'avais commencé ça à Genève, je suis parti en Europe, et puis après ça, j'ai transféré en Angleterre, c'est là que j'ai décidé de revenir dans ma communauté, puis de m'intéresser. Donc là, c'est devenu plus des questions de mémoire qui sont devenues centrales, et d'oubli, et puis c'est des phénomènes qu'on vit tous, là. Alors, jusqu'aujourd'hui,
Donc, ton travail, c'est ça, se passe, s'articule autour de l'oubli. Tu dis que c'est pas dans un livre, dans un article publié en 2015 qui s'intitule « L'oubli n'est pas absolu, réminiscence et prise de parole chez les Premières Nations ». tu nous amènes à voir que la perspective de l'oubli, c'est quelque chose qui arrive autant chez les francophones que chez les peuples autochtones d'Amérique du Nord. Tu vois aussi qu'il pourrait y avoir une certaine entraide. Comment tu articulerais cette entraide-là? Puis
D'abord,
comment
c'est un
tu penses que ça
article qui
pourrait être
date quand même.
bénéfique?
Pardon?
Qui date de 2015.
Oui, qui date, oui, ça date quand même, c'est une sixième, parce que les choses changent, puis je ne renie pas cet article-là, mais la réflexion, elle a continué, elle a été approfondie, puis moi, je prône beaucoup le fait de faire des recherches dans nos propres vies, de se regarder dans le noir tel qu'on est, là, tu sais, puis creuser chez nous aussi, puis j'encourage mes étudiants à faire ça, écouter l'histoire de leur communauté, puis de voir les choses comme elles sont. Pour moi, l'intégrité, c'est ça qui est important. Des fois, ça prend du temps, parce qu'on est les héritiers de ça, là, de traumatismes historiques, mais pas juste de ça, mais aussi de ça. Et l'effacement, c'est devenu pour moi une réalité. Je le voyais moi au début, puis avec le temps, ça s'est devenu central. Puis c'est les effets du génocide, là, qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité, là, des politiques génocidaires visent à effacer. Alors que le Canada reconnaisse en partie le génocide, mais que nous, on doit vivre avec les conséquences de ça. Puis une des conséquences des pensionnats, entre autres, ben, c'est les ruptures intergénérationnelles, puis l'assimilation, puis la perte de mémoire, évidemment, qui se vécu par tous les peuples là, qui font face au colonialisme. T'sais.
Ouais, ben,
Et
quand je...
bon, je nie pas que c'est vécu aussi par les communautés francophones, par d'autres groupes minoritaires aussi à travers le Canada, les communautés racisées aussi, puis à travers toute l'histoire. Mais il y a un effet, c'est l'effacement, puis ça, c'est là que ça devient très difficile. C'est l'effacement des mémoires autochtones par la minorité francophone. T'sais, puis c'est ça la question de l'oppression, là. Je sais que c'est très prédominant là, dans les discours présentement publics au Québec, entre autres, sur la question du racisme, t'sais, mais on peut pas l'éviter. Puis comment faire en sorte qu'il va y avoir des vérités qui vont être dites ou que la perspective des peuples autochtones, des premiers peuples, vont être articulée, entre autres, sur l'oppression, des formes de la mémoire coloniale, si on peut dire québécoise ou francophone. Comment faire cette critique-là sans que ce soit du bashing, sans que ce soit on reproduise la violence. Puis c'est là qu'il y a tout un espace qui peut être critiqué, où est-ce que la critique va avoir une place sans le bashing, tu sais, sans l'humiliation. Puis c'est là que je vois qu'il y a un beau travail à faire, là, tu sais. Mais pour ça, il faut de l'écoute. C'est pour ça que le monde académique, c'est ça l'idée de la chaire aussi, créer des espaces où on peut tout discuter, on peut tout réfléchir, mais surtout qu'il y a d'autres voix qui s'expriment. Puis entre autres, des voix qui sont marginalisées aussi au sein de nos communautés, là. Des voix plus critiques, l'histoire des femmes en particulier, qui était une autre forme d'oppression. Puis c'est vrai dans souvent des deux côtés, là. Alors, il y a un héritage patriarcal, qu'on le veuille ou pas, là. Puis de racisme intériorisé aussi, l'idée que nos histoires ont moins de valeur. Alors ça, c'est la condition d'être colonisé, en fait.
Est-ce que tu trouves qu'un des bons exemples d'effacement, c'est qu'on ne nous croyait pas jusqu'à temps qu'on enregistre par vidéo les actes de racisme qu'on pouvait vivre? On le disait, on le disait, on le disait qu'on vivait des situations problématiques avec la police, avec les systèmes de santé, puis tout ça. Puis tant qu'on n'a pas eu Joyce Echaquan qui a eu le courage de s'enregistrer, on ne croyait pas. Est-ce que tu penses que c'est une forme d'effacement, ça?
Oui, tout à fait. Puis on l'entend depuis, tu sais, quand tu viens d'une communauté où tu l'as vécu ou peu importe, ben tu sais que ça existe. Depuis toujours, tu l'entends parler, mais ça fait tellement mal que, tu sais, des fois, la mémoire aussi, tu sais, les gens, ils veulent pas tout le temps, là, vivre avec leur mémoire traumatique. C'est ça que ça fait, le racisme. Ça crée de la souffrance, ça crée c'est de l'oppression, hein. C'est des mémoires traumatiques. Et c'est la pointe de l'iceberg, tu sais, puis jusqu'où les gens sont prêts à entendre vraiment ce qui se passe, ben, c'est là, qui, c'est là que l'écoute devient centrale. Puis tu parles d'entraide, tout le monde parle de réconciliation, mais écouter au-delà du malaise, sans que les gens se braquent, puis sentent qu'on est venu nous attaquer ou c'est du Québec bashing, c'est pas la question. Puis c'est pas parce qu'il y a une critique, par exemple, du racisme au Québec que c'est une apologie du racisme au Canada. Parce que la critique est encore plus radicale de l'autre côté, tu sais. Puis un est lié à l'autre. Fait que oui, Joyce, c'était un moment, c'était très courageux de sa part, puis c'est super tragique, mais c'est des choses qu'on entend et qu'il y en a encore, et puis c'est pour ça que, mais je sais que c'est très difficile pour le public d'entendre ça, puis ça crée une genre de culpabilité, puis moi, je trouve, c'est lié avec des dynamiques aussi, tu sais, le racisme, c'est ça aussi, là, puis les gens, des fois, ils vont chercher des boucs émissaires pour se sentir mieux, puis c'est ça qui m'inquiète, parce que le racisme, c'est pas juste, c'est envers les premiers peuples, c'est aussi envers les gens noirs, c'est envers les gens racisés en général. Alors, il y a beaucoup de groupes qui vivent cette oppression-là. Et puis, qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul récit. Puis c'est comme une brèche. Joyce Echaquan a fait une brèche dans le récit que tout va bien, puis qu'il n'y en a pas de racisme au Québec, tu sais. Puis parce qu'il y a une autre histoire qui existe, oui, elle est douloureuse, mais il faut la faire. Puis ça, ça va être fait par l'écoute de ceux qui portent cette histoire-là. Puis il faut passer par ce chemin de l'écoute pour en arriver à une vraie justice, retrouver un équilibre, puis réécrire une histoire, mais tous ensemble. Puis ça passe justement par cette partie plus difficile. Puis moi, c'est ça, dans mon livre aussi, tu sais, You Should Forget, ben, il y a une partie que c'est des récits que les aînés m'ont dit sur le racisme qu'eux ont vécu, mon grand-père, entre autres, qui a manqué de se faire tuer, là. C'est ça, le racisme, c'est de la violence. Mais on veut pas rester dans le ressentiment. On veut pas reproduire cette violence-là, mais il faut que ça soit dit, tu sais, regarder, réfléchir, puis après, on va pouvoir aller vers d'autres choses. Mais il n'y a pas de passe-droit, là, en matière de racisme ou d'oppression, tu sais, puis, je pense que il peut y avoir des fois une compétition au niveau des, oui, mais nous autres aussi, on entend ça des fois des Québécois, ouais, mais nous autres aussi, on est oppressés, nous autres aussi, on a vécu de la violence. OK, on peut le croire, mais ça n'enlève pas qu'il y a des formes d'oppression aussi à l'intérieur, puis qu'il y a du racisme vécu par les peuples autochtones en particulier au Québec. T'sais. Puis ça, c'est pas parce que c'est pire ailleurs que ça n'existe pas chez nous, tu sais. Puis là, je pense qu'il faut démêler tout ça, puis on est rendu à ce point. Je pense un point tournant. C'est un point tournant. Donc, il y a plusieurs récits.
Il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs récits, puis on vient souvent nous amener l'idée de la réconciliation comme quoi c'est important. C'est que moi, je vois ça quasiment comme quelque chose, un objet rhétorique au lieu d'être un objectif à atteindre. Je trouve qu'on parle pas assez de décolonisation avant de parler de réconciliation. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce terme-là?
Oh, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens sur le terrain qui sont très authentiques là, avec le cœur. Ils veulent vraiment, tu sais, comme faire les choses autrement, tout ça. Fait que moi, je veux pas nier le travail qu'il y en a qui forcent, puis qui se forcent pour faire bien les choses, puis améliorer avec bienveillance. Mais ça reste que il y a quand même une stratégie politique derrière tout ce concept de réconciliation. T'sais, j'ai entendu des gens dire, ouais, on veut la réconciliation, mais pas la vérité. Tu sais, dans le sens que puis il y a l'argent qui vient avec avec les discours de réconciliation. Alors, c'est des politiques qui visent une forme de pacification aussi, tu sais, puis c'est lié avec les commissions. Alors, tu sais, c'est tout le temps c'est souvent une stratégie pour apaiser la colère et la résistance, tu sais, pour faciliter le développement des ressources et l'appropriation des territoires. Parce que c'est ça le qui est derrière toutes les politiques qui touchent les premiers peuples au Canada, ça a tout le temps été l'appropriation des territoires, des ressources et l'affirmation de la souveraineté de l'État. Là. Faut pas se cacher que c'est ça, puis que les vérités qu'il y a derrière que portent les premiers peuples, est-ce que ça fait pas l'affaire nécessairement des grandes compagnies ou des gouvernements, là, parce que il y a une autre histoire, puis cette histoire-là a fait très mal et elle génère une certaine colère aussi, une certaine résistance. Parce qu'il y a une grande tradition de résistance aussi à travers ça. Alors pour moi, il y a une forme de violence en demandant aux gens de pardonner, tu sais. C'est quasiment se faire forcer à pardonner. On appelle ça le pardon sans confession, là. Fait qu'il y a, pour moi, il y a l'épreuve de la vérité qu'on peut pas éviter. Et puis, c'est très difficile parce que ça implique l'oppression au sein de nos propres communautés. Et comme homme, par exemple, c'est de critiquer notre propre masculinité. Réfléchir au racisme intériorisé aussi. C'est de la tourner dans toutes les directions, cette critique-là. Porter un regard intègre dans toutes les directions. Et puis, il n'y a pas de passe-droit, là, si on peut dire, là, en matière de vérité. Mais oui, le concept de réconciliation a été surutilisé. Puis, comme on voit avec le concept d'autodétermination présentement, là,
nous fait croire. On pourrait en parler. Professeur Ross Tremblay, on va prendre une petite pause musicale. On va parler du concept d'autodétermination en revenant de notre petite pause.
OK, merci.
Merci.
Water. The government doesn't even bother. told us not to speak our language. If we did, then we were beaten, bandaged. We were scared, tortured, and abused. This took place at residential schools. They disguised for genocide. They tried to kill the Indian within. We almost did not survive. We almost died.
Chanson Anishinaabe de l'artiste Kate White Duck, que j'imagine vient de la communauté de Kitikanzibi. Donc, on est de retour avec notre invité, le professeur Ross Tremblay. Bonjour, professeur. Donc, on se quittait, puis tu nous parlais d'autodétermination. Du concept de l'autodétermination, comment il fallait faire attention avec ça quand on l'utilise, que c'est quasiment un objet des fois plus rhétorique qu'un vrai outil qu'on peut utiliser.
Oui, ben c'est ça. Ben comme souvent, les concepts sont réutilisés là, par les gouvernements, puis pour une façon, ben c'est lié aussi avec la déclaration des Nations Unies. Je dis pas qu'il n'y a pas de bon dans la déclaration et tout ça, mais souvent on essaie de nous envelopper des choses dans quelque chose qui on enveloppe les structures coloniales pour nous faire croire qu'ils sont pas. Puis il y a de l'argent qui est balancé, puis ça donne l'impression d'avoir une véritable autodétermination, qu'on se dirige vers une, parce que c'est un concept révolutionnaire, l'autodétermination historiquement là, en droit international et tout ça, on parle de résistance des peuples à l'oppression, puis la transition, le fait de faire les choses par soi-même entièrement, d'être autonome, d'être libre et tout. Il y a toute cette idée là, collective, autant individuelle que collective. Alors, c'est un concept super riche, tu sais, de faire les choses par soi-même, diriger son propre canot puis le propulser, tu sais. Puis je trouve que cette conversation-là doit avoir lieu sur le terrain autant que possible. Mais réellement,
par rapport à ça, l'autodétermination, si tu me permets.
Toujours, pardon?
Si tu me permets, par rapport à l'autodétermination, moi, le constat que je fais souvent et que d'autres auteurs ont fait aussi, c'est que on va donner comme des petits morceaux d'autodétermination qui sont bien les élections, pouvoir gérer la protection de son enfance, son éducation, mais on ne veut jamais parler de la raison pourquoi on nous a mis sur des réserves, le territoire, la prise du territoire, le contrôle des richesses, puis quand on parle d'autodétermination actuellement, c'est sans ces aspects-là, sans contrôle du territoire, souvent.
Ah, ben, tout à fait. Le fondement du problème, là, c'est la Constitution, l'article 91-24, la fameuse juridiction là, de la couronne sur les Indiens, les terres réservées aux Indiens. Là, puis je trouve qu'il faut retourner à ça. Parce que même dans les hauts fonctionnaires à Ottawa, ils ne savent plus quoi faire avec ça, parce que c'est un concept du 19e siècle complètement dépassé. L'idée des autochtones sont des objets, finalement, là, de compétences.
Des sujets, oui.
Des animaux, là. Puis ouais. Là, qu'est-ce qui va suivre ça? Puis même les juges de la Cour suprême disent, ben on reconnaît vos droits inhérents, votre souveraineté ancestrale et tout ça, mais le reste, c'est à vous de le faire, parce que l'autodétermination, ça peut juste être opérationnalisé par nous-mêmes. Hein, tu sais, puis des concepts de souveraineté ancestrale et tout ça inhérente, ben là, il faut revenir au fondement de nos ordres juridiques anciens, et puis ça implique les gens sur le territoire, les gardiens de... Alors, c'est pour ça que là, on a les structures des conseils de bande qui découlent de la juridiction fédérale, puis avec la loi sur les Indiens, mais là, si on veut vraiment une forme d'autodétermination, il faut retourner à la source et dire comment on va exercer collectivement comment on va prendre qui on est, comment on va prendre nos décisions collectivement, puis à partir de quelle loi, sur quel territoire. Fait que c'est vraiment la question fondamentale là, de notre lien à nos terres ancestrales, vraiment à l'extérieur de la réserve, parce que la réserve, c'est une anomalie historique. Mais qui va exercer le contrôle, l'autorité à l'extérieur de la réserve? Mais le conseil de bande a été conçu pour
des limites.
Pour la limite, puis c'est pas pour... Moi, j'accuse pas là, les dirigeants, peu importe tous ceux qui sont élus, mais c'est la structure elle-même qu'il faut réfléchir. Puis je pense que les gens, en général, on a le même objectif. Faut se dire, faut se libérer de ce canot percé avec une rame cassée, tu sais, puis on se demande pourquoi ça avance pas, parce que c'était fait pour la simulation, pour qu'on consente à notre propre anéantissement. T'sais, on s'entend que c'était fait pour les mauvaises raisons, pour affaiblir, pour faire en sorte que... pour diviser aussi. Fait que... Mais si on puise dans nos propres histoires puis nos propres traditions intellectuelles, on trouve des concepts géniaux, tu sais, on peut faire des designs incroyables au niveau politique. On peut se redonner des organisations politiques vraiment là, fondées sur nos valeurs puis dans notre vision du monde. Puis ça, c'est pas quelque chose, c'est pas l'idée, on va retourner en arrière. Non, au contraire, c'est que ces valeurs-là puis ces visions du monde-là sont l'avenir, d'une certaine façon. Surtout l'idée de ce rapport avec la Terre, de responsabilité, de protection, de respect de la Terre. Tu sais, c'est pas quelque chose c'est pas de l'utopie, là. C'est concret sur le terrain qu'il faut protéger, puis on a une responsabilité.
Si tu me permets un petit commentaire là-dessus.
Pardon?
Si tu me permets un petit commentaire, on est dans l'ère anthropocène en ce moment, la sixième extinction de masse, puis nos façons de faire sont sûrement une des solutions à la survie de l'humanité.
Tout à fait. Pour ça, il faut retourner vers ceux qui le font très bien depuis très longtemps. Il y a des aînés qui sont là, qui ont souvent été musulés, des gens qui ont été marginalisés par les gouvernements, mais aussi dans nos propres communautés. Il faut le dire aussi, parce que c'est un des effets là, de la colonisation, de créer de la division, puis de marginaliser ceux qui portaient ces savoirs-là. Fait que pour ça, c'est un des travails qu'on veut faire, là, quand je fais les prochaines années, c'est de faire le récit, d'écouter les gens qui ont toujours défendu cette vision du monde-là, qu'on a opprimé, qu'on a marginalisé, mais qui ont jamais lâché. T'sais. Puis il y en a beaucoup, hein, des familles traditionnelles, puis surtout des aînés qui portent la vision, il y en a plus tant que ça, là, il faut dire. Mais les grandes archives, mais il faut vraiment, vraiment écouter ceux qui vivent sur le territoire, qui parlent la langue, qui portent les récits anciens, parce qu'eux, ils peuvent nous dire dans quelle direction on doit aller, puis comment prendre les décisions ensemble aussi, puis c'est quoi les lois? Parce que les lois, elles sont là, elles sont dans la nature partout, hein?
C'était nos comptes qui étaient nos...
La terre comme
source de nos lois.
Puis je disais ça à des constitutionnalistes il y a quelques années, puis ils riaient de moi, tu sais. Puis aujourd'hui, on entend ça, tu sais. Les mêmes constitutionnalistes nous reviennent, puis nous disent ça, tu vois. Ah, la terre comme source de loi. Tu sais, on réinvente pas la roue, là. C'est ce que nos propres savants disent depuis longtemps, là. Tu sais, depuis toujours, au fond, là.
Puis justement, des savants, puis tout ça, des intellectuels, il nous en faut. On en a de plus en plus qui sortent des universités. Je veux profiter de ta présence pour, justement, toi, tu es un professeur innu à l'Université d'Ottawa. On voit qu'il y a une certaine volonté à l'Université d'Ottawa, entre autres en ayant engagé Eve Ottawa à titre de professeur dans la faculté de droit, qu'il y a une certaine volonté d'avoir un corps professoral qui est autochtone. Qu'est-ce que tu penses de cette volonté-là, puis de ce fait de briser ce cycle-là où on se fait raconter notre histoire par des professeurs blancs? Est-ce que tu penses que ça va aller de l'avant encore? Parce que je trouve qu'au Québec, on est un peu en retard par rapport au monde anglo-saxon dans le monde universitaire.
Ben, on pourrait en parler longtemps, là, mais il y a toute une industrie de la recherche autochtone. Il y en a qui ont intérêt à garder les Autochtones comme objet de recherche. Fait que c'est ça, ça amène des grands bouleversements, ça crée de la jalousie aussi, mais c'est vraiment de la décolonisation radicale. Puis comme prof autochtone, ben, faut pas trop se prendre au sérieux. C'est pas parce qu'on n'a pas à l'université qu'on sait tout. Puis il y a ce danger aussi, là, parce que ça donne un pouvoir. T'sais. Mais ça fait quand même 6 ans. Là, j'en ai vu. J'étais à l'Université Laurentienne avant, là, je suis à l'Université d'Ottawa. J'en ai vu là, des embauches autochtones et tout ça, mais l'important, c'est d'avoir des espaces où on peut faire les choses par nous-mêmes, parce que c'est ça la vraie liberté académique, c'est de pouvoir faire nos recherches puis dire les choses, de pas être muselé dans la liberté académique, mais c'est aussi une grande responsabilité de faire les choses autrement. C'est l'université au service de nos communautés et non nos communautés au service des chercheurs et de l'anthropologie, de l'histoire et tout ça, comme on l'a vu historiquement. C'est pour ça que plus il va y avoir de profs autochtones, plus ces profs-là aussi, on a des liens entre nous. pour créer des formes de solidarité, là, pour faire les choses autrement, tu sais, puis de pas se penser comme supérieur aux aînés ou comme, tu sais, c'est ça aussi, là. C'est une autre vision du savoir, puis une autre façon de travailler plus dans l'égalité, une vraie collégialité, pas reproduire l'oppression qu'on dénonce, tu sais. Mais c'est très important, la liberté académique. Puis quand parce que quand nos étudiants viennent, j'ai des étudiants, ben, moi, mon étudiant, tu sais, je vais dire, ben, va parler à ton grand-père, fais l'histoire de ta famille, tu sais, puis on le sait, on connaît bien les obstacles qu'il y a, là, le fait de réfléchir sur sa propre communauté, tu sais, parce qu'on l'a vécu. Fait que c'est ça que ça change vraiment la dynamique, tu sais, c'est très agréable, c'est fort, là, la façon de puis les études autochtones, ben, on donne une valeur à l'invisible, au visible, tu sais, c'est une très riche tradition, là, Indigenous Studies en études autochtones. Fait que, plus ils vont en avoir, mieux c'est. Là, dans le cas du Québec, moi, je peux parler de mon expérience, que j'y vais en Ontario, puis j'ai eu des collègues Anishinaabe, des collègues Cree, tu sais, quand tu te retrouves, là, dans des endroits où on est une dizaine de profs autochtones autour de la table, tu sais, t'as pas peur de dire les choses comme elles sont, ça amène une forme de liberté, une liberté de la pensée aussi.
T'es pas l'Indien de service.
Ben non, puis il n'y a plus personne qui peut parler en ton nom. Moi, ce que je trouve déplorable au Québec, c'est qu'il y en a qui se permettent encore, tu sais, puis je dis ça pas avec du mépris, mais c'est dépassé, là, parler au nom des Autochtones. C'est pas parce que tu traduis un livre ou que tu interviews un aîné qui peut te permettre de parler en notre nom. Laissez l'espace, puis faites en sorte qu'il va y avoir plus de paroles, de monde qui vont parler, puis pas toujours prendre le micro. Moi, tu sais, pas toujours les mêmes qui prennent le micro. Faut faire très attention, puis passer à pas, comme on dit. Puis plus il y a des gens qui vont parler, ouais, ben on prend de la force. Les gens sont plus
c'est ça qu'on essaie de faire.
Domaines. C'est vrai dans les médias, c'est vrai dans le monde.
Jacques Nemetin, Pierre-Auras Tremblay, merci beaucoup pour ta participation avec nous. C'était vraiment très, très apprécié. J'espère qu'on va pouvoir se reparler, parce qu'il y avait eu d'autres sujets qu'on aurait pu discuter avec toi. Jacques Nemetin, désolé pour mon inou. Au revoir.
Continuez votre bon travail. Merci.
Vous écoutez Kwe, bonjour.
It keeps me up at night. Keeps
C'était Two Wolves de Willow, une artiste originaire de la nation métisse du Manitoba.
Avec nous aujourd'hui, l'auteur d'une gigantesque, volumineuse et très belle bande dessinée. Elle s'appelle Emmanuelle Dufour. Bonjour, vous êtes là?
Bonjour, Koué.
Quelle bande dessinée vous avez fait? Mais dites-moi, est-ce que c'est votre thèse de doctorat, votre maîtrise de je ne sais pas quel cours qui est en bande dessinée?
Oui, en fait, c'est la composante principale de mon doctorat en éducation par les arts.
Et vous l'avez fait comme ça, en bande dessinée, c'est accepté dans le milieu académique, ça?
Bien, enfin, oui, c'est une nouvelle méthodologie qu'on appelle la recherche-création. En fait, c'est nouveau, je vous dirais, du côté francophone, du côté des universités anglophones, ça fait quand même plusieurs années là, qu'on travaille comme ça. Donc, c'est la foi, la confiance, en fait, que les approches artistiques peuvent être aussi vectrices de nouveaux savoirs, de nouvelles méthodologies. Et ça rejoint d'ailleurs les méthodologies de recherche autochtones qui ont des approches aussi plus différentes finalement, ou d'une conception différente des savoirs que ceux qu'on rencontre dans l'académie en général, les plus classiques.
Et dans cette bande dessinée, quand vous citez des gens, vous citez beaucoup de gens là-dedans qui viennent témoigner, beaucoup de gens du monde académique, mais d'autres aussi, vous les dessinez également, vous dessinez les situations dont on parle. C'est fort intéressant à feuilleter, à regarder, à lire, hein?
Ah ben merci, c'est gentil. En fait, oui, on compte environ une cinquantaine de contributeurs, mais les contributions se sont étendues sur un spectre assez large. Là, on parle, dans certains cas, c'est l'évocation d'un souvenir commun, finalement, que j'ai dessiné, que j'ai fait approuver, qu'on a discuté. D'autres fois, c'est une citation qui est empruntée, que ça peut être un texte, une conférence, puis tout ça, mais toujours, évidemment, avec consentement puis approbation de l'image. D'autres cas, on a fait des conversations, des genres d'entrevues informelles, donc on a discuté parfois avec la maquette de la bande dessinée qui est en construction ou pas. Et il y a d'autres collaborations qui étaient plus consultatives, donc les contributeurs peuvent me dire, donner des conseils, qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver ou qu'est-ce qu'ils pourraient retirer. Donc, c'est vraiment plusieurs types de contributions, mais je vous dirais qu'il n'y a pas de gradation, dans le sens que c'était une invitation ouverte en fonction des disponibilités, des intérêts de chacun, parce que c'est la plupart des contributeurs, là, une grande majorité, c'était des gens que je connaissais déjà, qu'on avait une relation de confiance, même des amis, des collègues.
Et oui, parce que le milieu académique, vous le connaissez bien, parce que j'ai pas voulu de faire la liste de vos diplômes, mais est-ce qu'il vous reste encore des diplômes à obtenir dans quelque université que ce soit?
Oui, une coupe quand même, oui.
Finalement, vous faites un collier de vos diplômes, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup. Félicitations. On va commencer par le commencement, Emmanuelle Dufour. Mm-hmm. Le titre, hein, c'est le Québec qui est né dans mon pays. Quel titre?
Oui, c'est une citation de mon amie Anna Mapache. Un soir, on attendait le métro ensemble, puis elle me racontait que la veille au soir, elle avait rencontré quelqu'un qui essaie de deviner, en fait, dans un endroit public, qui essaie de deviner de quelle origine était Anna. Anna est Anishinaabe écrit, de Pikogan, Abitibi-Winni. Puis, il nommait tous les pays du monde auxquels il pouvait penser, là, donc Mexique, Maroc, peu importe. Puis Anna, elle répondait non, non, non. Puis il disait, en entendant son accent, il lui a dit, « OK, mais t'es québécoise. » Puis elle a dit, « Mais non, je suis pas québécoise. » Puis là, la personne a dit, « Oui, oui, mais t'es née au Québec. » Puis là, c'est là qu'elle aurait dit, mais non, je vais te le dire, là, c'est pas moi qui est né au Québec, c'est le Québec qui est né dans mon pays. J'avais trouvé ça tellement fort et excellent que finalement, on l'a gardé pour l'entrevue et finalement, c'est devenu le titre, la première partie du titre, finalement, de la bande dessinée.
Vous, personnellement, vous n'êtes pas autochtone, vous êtes blanche, je crois.
Oui, tout à fait.
Moi aussi. On dit dans le livre, vous dites dans le livre que vous vous êtes intéressé aux Autochtones, si on veut, à commencer par les Maoris en Nouvelle-Zélande. Ça m'a touché parce que moi, j'ai fait des études aussi sur les Maoris, mais aux îles Marquises. Alors, parlez-moi un peu de votre choc avec les Maoris.
Bien, en fait, je vous dirais qu'à la fin de la vingtaine, ça faisait 10 ans que je voyageais un peu partout dans le monde. J'ai rencontré les Maoris, oui, mais j'avais aussi été beaucoup en contact ou en relation avec des gens de différentes nations, là, pas juste les Maoris. Puis c'est à partir de là que j'ai eu comme une sorte d'éveil, me rendre compte, les premiers peuples de chez nous, j'en connais aucun. Tu sais, je me lie d'amitié avec des gens un peu partout dans le monde, puis alors que les gens les premiers peuples du territoire qui me vu naître, ben j'en connais aucun, puis je sais à peu près rien sur eux. Puis c'est un peu ce que je raconte dans les premières pages du livre. Là, un matin que je m'étais réveillée, justement, j'habitais dans une famille maori, puis la petite fille m'avait réveillée, la petite fille de la famille, elle voulait savoir, elle voulait avoir des informations sur les enfants ou les premiers peuples de, entre guillemets, de chez nous. Là. Puis tout ce que j'avais en tête, c'est le fameux tableau là, algonquin iroquoien qu'on apprend à l'école. Et évidemment, je savais que c'était pas ça, mais j'avais aussi toutes les représentations stéréotypées héritées de la crise d'Oka, parce que j'avais 10 ans lors de la crise d'Oka, puis d'ailleurs je leur parle pas mal dans le livre. Puis de tout aussi, toute la littérature jeunesse de l'époque, là, avec encore là des images super stéréotypées. Mais je me rendais compte que la vraie rencontre, elle n'avait pas eu lieu. Puis je trouvais que ça valait la peine de s'intéresser à ça parce qu'on est plusieurs au Québec, des Québécois et des Québécoises, à ressentir un malaise ou même une franche honte par rapport à notre méconnaissance. Mais on essaie toujours de la tasser, de la cacher. On l'adresse pas, puis je pense que le but, c'est pas d'encourager la honte, hein, évidemment. Moi, je nomme celle que j'ai éprouvée pour mettre carte sur table, mais l'idée, c'est de pouvoir identifier les éléments du système qui empêchent cette rencontre-là. Puis, en fait, finalement, c'est comme étudier le racisme systémique des deux côtés, du côté du témoignage des personnes autochtones qui racontent.
C'est ça, du côté aussi des personnes non autochtones. Je trouvais ça, Alexis Wananawat à l'appareil, je m'excuse.
Oui, bonjour Alexis.
Mais c'est un élément, je trouvais ça très intéressant dans votre livre, c'est que vous citez un tweet, je pense, d'un militant qui dit aux personnes non racisées ou aux personnes non autochtones de dire arrêtez de raconter une histoire. On avait justement un professeur Inou de l'Université d'Ottawa comme invité précédent, puis qui disait ça. On en a marre des personnes non autochtones qui viennent prendre notre place, qui viennent raconter notre histoire à notre place. Puis c'est ça qui est intéressant quand même du concept de votre livre, c'est la part justement du racisme systémique, de la part des Québécois, comment on peut raconter cette histoire-là, mais de votre perspective.
Oui, c'est ça. L'idée, c'était vraiment pas une prétention de raconter les histoires autochtones. Là. C'est vraiment de raconter notre bout de l'histoire. Puis le tweet auquel vous faites référence, c'est celui de Jesse Wente, qui est aussi Anishinaabe Ojibwe, puis qui est devenu le premier président du Conseil des arts du Canada. Hein. Entre-temps, en fait, c'est drôle parce que quand il a fait le tweet, pas encore, en fait. Puis oui, moi, ça m'avait beaucoup touchée. C'était quelque chose que j'étais déjà très sensible à ces questions-là. Puis je fais des citations de plusieurs autres leaders ou artistes autochtones qui demandent ça, en fait. Et puis même si on va voir du côté de un autre Maori, finalement, celle qui a proposé le concept de sécurisation culturelle, Ramsden, elle insistait beaucoup sur l'importance de l'approche réflexive, tu sais, de devoir qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je connais pas, où sont les trous de mon histoire, pourquoi, d'où vient ce que je crois connaître, finalement, sur notre histoire coloniale. Fait que c'était vraiment cette partie-là que je me sentais plus confortable, plus légitime d'explorer, et je pense qu'on a un grand besoin d'en parler ensemble.
Moi, je voudrais que vous commentiez, Emmanuel, cette citation qu'il y a dans votre livre du juge Mary Sinclair, qui dit « C'est l'éducation qui nous a menés dans l'incompréhension et qui devra nous en sortir. »
Oui, tout à fait. Ben, en fait, je pense que c'est un petit peu... En fait, la BD se présente un peu comme une préparation à la rencontre et donc à une préparation à ça. Je pense qu'il y a toutes sortes de dimensions dans cette citation-là. Autant un modèle comme de sécurisation culturelle comme, par exemple, l'institution Kiuna, qui est un partenaire principal de cette bande dessinée-là et dont il est question au dernier chapitre, au cinquième chapitre, je crois, qui permet finalement... parce que quand on parle de non-rencontre, on peut même dire pour plusieurs étudiants autochtones, le système d'éducation les rend tellement invisibles, rend tellement invisible leur histoire et même dans leur propre communauté que un modèle comme de sécurisation culturelle, comme l'institution Kiuna, permet finalement de contextualiser les enjeux en apprenant les chapitres fondamentaux de l'histoire qu'on devrait tous apprendre, là, les violences coloniales là, entre la conquête britannique, puis avant le soulèvement ou la crise d'Oka, tout ce chapitre-là avec la sédentarisation forcée, la dépossession territoriale, les pensionnats autochtones, le massacre des chiens de traîneau, la déportation des communautés. Moi, je ne sentais pas que c'était à moi à raconter ces chapitres-là, mais il faut être conscient qu'il y a des gros trous dans notre éducation. Puis peut-être
Emmanuel, ça fait deux fois que vous citez comme ça en passant la crise d'Oka, et dans votre livre, dans la bande dessinée, c'est très présent, cette crise d'Oka. Est-ce que ça a été finalement un point tournant dans l'incompréhension entre allochtones et autochtones?
Ben, je pense que oui. Par contre, encore là, dans ma bande dessinée, je n'essaie pas de discourir ou de faire une analyse globale, finalement, de la situation. Mais dans mon propre expérience de citoyenne alloctone, ça a été très marquant et ça l'a été aussi pour plusieurs personnes autochtones, contributeurs. Ça l'a été, je pense, pour pas mal toutes les personnes autochtones du territoire, mais les contributeurs racontent eux-mêmes comment ils l'ont vécu et comment les relations comment le racisme et la discrimination a explosé suite à finalement l'élévation d'une voix sur des questions comme les questions territoriales. On sait, c'est pas né en 1990, hein. C'était des conflits une question qui aurait dû être traînée, qui infectait, qui est infectée et qui continue à l'être. Mais quand on osait finalement l'exprimer, bien évidemment, les Québécois, faute d'éducation, on n'avait pas les outils pour comprendre cet enjeu-là. Et à l'époque, on peut dire aussi que tous ces trous au niveau de notre éducation étaient remplis par tout ce qui traînait, donc une représentation médiatique partielle, ethnocentrique, et elle-même pleine de trous. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment eu un...
En revenant sur l'éducation autochtone, j'ai bien apprécié quand vous avez fait le lien entre le collège Manitou puis le collège Kiona. Mm-hmm. Ma mère est une des étudiantes de Manitou. Puis moi, oui. j'ai pas un diplômé de Kiona, mais j'ai fait quand même une session là-bas. Puis de voir justement tous les leaders qui ont passé par Manitou, puis tous les futurs mm-hmm. leaders que Kiona est en train de faire, j'ai bien aimé ce lien-là.
Mais je pense qu'il y a un très gros lien entre les deux. Puis c'est drôle parce que j'ai participé à un podcast avec votre mère, justement, portant sur l'imprimerie de Manitou récemment. Ça va être c'est un autre projet, mais le lien est très, très fort entre les deux. Puis si on voit aussi Lise Bastien dans la bande dessinée, Lise Bastien, qui est une ancienne également de Kiuna, de Manitou, et qui a été la première directrice aussi de Kiuna et du CEPN. T'sais. Donc je pense que c'est vraiment un lien. Les objectifs, la création d'un nouveau leadership, d'une fierté identitaire, de la promotion de la persévérance scolaire à travers la fierté identitaire, ben c'est ça, je pense qu'il y a vraiment un lien très, très fort une parentalité entre les deux institutions.
Il reste un peu de temps, Emmanuel. Est-ce que le chemin du rapprochement entre allochtones et autochtones passe nécessairement par une sorte de culpabilité?
Non, comme je disais, l'idée, c'est pas d'encourager la culpabilité. C'est de pouvoir... oser faire un chemin introspectif puis de se responsabiliser à partir de là. L'idée, ça c'est vraiment important, c'est le fun que vous reveniez là-dessus parce que l'idée c'est pas de dire on doit se sentir coupable puis pas tout ça, mais on doit se sentir concerné. Je pense qu'il y a une grosse nuance là-dedans. Parce que comme Sinclair le dit, je le sais dans la bande dessinée, la question de la réconciliation, mais là, sans se rendre, ou de la conciliation, disons, c'est pas juste un problème autochtone, hein? C'est un problème canadien, c'est un problème québécois puis on est tous concernés par ces questions.
Merci beaucoup, Emmanuel Dufour. Une magnifique bande dessinée sur le monde autochtone, sur les rapports, surtout entre Blancs et Autochtones. Bien meilleur que Tintin en Amérique, Emmanuel.
J'espère.
Merci.
Allez, Annie.
Au plaisir.
Au revoir.
c'était Waratanak de l'artiste Atikamekw Loranike.
Et on passe à nos nouvelles commentées, Alexis. Mm-hmm. Alors, la première nouvelle à commenter pour toi, le gouvernement fédéral accepte de verser 145 millions de dollars à la communauté malécite du Madawaska comme indemnisation pour des terres non cédées au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Ça fait plusieurs années que les Premières Nations malécites du Madawaska revendiquent ces terres-là, qui comprennent une grande portion du centre-ville d'Edmundston. T'en penses quoi?
Ben, c'est des situations qui arrivent de communauté en communauté. Tu sais, ma propre communauté, on a deux revendications. On appelle ça, d'un côté, des revendications globales quand c'est le territoire qu'on revendique, comme les Atikamekw qui revendiquent toute leur Nitaskinan. Et il y a un processus de revendication particulière quand on avait une communauté, on avait des terres de qu'est-ce qui est devenu des réserves plus tard, bien identifiées. Et le gouvernement était supposé nous protéger là-dedans et l'a pas fait. Souvent, l'agent des terres s'en mettait plein les poches en vendant des territoires de façon illégale, de façon non conventionnelle. Donc, je suis bien heureux pour eux. Cependant, ça ramène pas la terre. Tu sais, c'est bien une contrepartie financière, mais souvent on manque de place dans les communautés puis tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un processus en plus pour qu'on puisse agrandir les communautés ou cette communauté-là? Ça reste à voir. On le voit à Sept-Îles, on le voit à Wendake. On acquiert de nouveaux terrains pour pouvoir agrandir la communauté. Donc, je me demande si c'est le cas dans là aussi. Là.
Il y a des problèmes communautaires comme ceux-là pour une ensemble d'une société, d'une première nation. Il y a aussi des problèmes pour des individus. Alors, il y a un chercheur qui oriente son doctorat sur l'autisme en milieu autochtone. En langue crie, le mot utilisé pour décrire l'autisme, quand je vais venir le mot, j'ai de la misère à le dire, c'est pitoleitam, je ne sais pas ce que ça veut dire pour moi. Ce qui signifie celui ou celle qui pense différemment. Bon, c'est une parmi plusieurs découvertes faites par Grant Bruno, un père de deux enfants autistes à Edmonton, qui s'est plongé dans une recherche portant sur l'autisme dans les communautés autochtones. Il y a aussi ces problèmes individuels.
Ben oui, qui sont souvent mis sous le tapis. On a tellement à vivre où notre vie est souvent un combat où qu'on a à dénoncer des choses, on a à résister dans notre vie quotidienne à plein de micro-agressions ou d'agressions qu'on peut vivre. On n'a pas ça à l'esprit qu'il y a des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, des handicaps physiques, des handicaps intellectuels dans les communautés. Puis c'est une réalité aussi, donc il faut parler de la diversité de nos réalités. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse une étude là-dessus.
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, Alexis, ne remboursera plus aux communautés des Premières Nations une partie de la taxe de vente provinciale perçue dans les entreprises situées dans ces communautés. C'est grave?
Ben c'est grave. C'était sûrement une façon, une entente que les communautés avait avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour avoir des fonds autonomes. Tu sais, on vient tout le temps nous accuser dans le système libéral économique actuel que les Autochtones, c'est une dépense, qu'on coûte cher aux différents gouvernements, aux payeurs de taxes. Là, on a ici une entente administrative qui permet aux communautés d'avoir une certaine partie de fonds autonomes qui faisait en sorte que les gens sur les commerces dans leur communauté percevaient des taxes, oui, puis ça allait dans le fond de la communauté pour pouvoir faire du développement sans avoir tout le temps demandé la permission aux différents gouvernements coloniaux. Donc, je trouve que c'est un recul.
Dans le nord de l'Ontario, cette fois, les Premières Nations d'Attawapiskat, Fort Albany, Neskontagar déclarent un moratoire sur tous les développements dans la zone minière du Cercle de Feu, jusqu'à ce qu'une analyse d'impact régional soit effectuée, attention, par un groupe d'Autochtones.
Oui, bien, on vient tout le temps avoir les analyses d'impact comme ça par des firmes non autochtones qui ne viennent pas nécessairement prendre en compte nos réalités culturelles, nos réalités environnementales, notre lien avec le territoire. Et qu'est-ce qu'il y a d'insultant, tu sais, par rapport à Attawapiskat? C'est que c'est une communauté qui manque d'eau, qui est une communauté une grande, grande pauvreté, puis qui sont juste à côté d'une des mines de diamants les plus productives, les plus riches au monde. Donc, il y a de quoi être insulté, je pense. Et je comprends que ces nations-là, ces communautés-là, se disent à un moment donné, ça va faire. T'sais.
Ça rappelle un peu l'Afrique du Sud, Alexis, hein? Des grosses mines de diamants et la pauvreté qui l'entoure.
Ben oui. Ben c'est ça, comme on ramène, tu sais, je suis fatiguant avec le territoire, avec la décolonisation puis tout ça. Des fois, j'ai l'impression d'être un perroquet qui répète décolonisation, 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 territoire, territoire. Mais il faut tout le temps se ramener à d'où ça vient, c'est quoi le réel enjeu derrière toutes ces luttes-là aussi.
Les commentaires d'Alexis Wawandolowat. On revient dans quelques instants. Pour vous dire à la semaine prochaine, l'émission aujourd'hui est toujours des mêmes collaborateurs, Pierre Guérin, Louis Garon, Alexis Wawandolowat, qui va nous revenir la semaine prochaine, Alexis, j'en suis absolument certain.
Bien.
Robert Blondin ici. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.